Salut à tous. Deuxième page. Cet aveuglement conduit parfois à des positionnements abscons. Ainsi, le journaliste britannique de gauche Paul Masson, un éminent soutien du Parti travailliste, reconnaît dans la guerre actuelle en Ukraine une lutte entre, d'une part, les pas si mauvaises démocraties, post-impérialistes, occidentales d'une part, et de l'autre, le méchant, impérialisme russe. Pour des raisons similaires, il a plaidé en 2019, contrairement à la position de Jeremy Corbyn, pour le maintien de l'arsenal nucléaire britannique dans le programme électoral du Parti travailliste, une position assez étrange si l'on considère que la gauche devrait justement se battre maintenant pour l'abolition de toutes les armes nucléaires. Selon cet état d'esprit, une séparation complète s'établit entre les positionnements politiques et les conclusions pratiques. En d'autres termes, le postulat de Karl Liebknecht selon lequel l'ennemi principal se trouve dans son propre pays, est également considéré comme obsolète, tout comme le concept marxiste d'impérialisme. Cela explique aussi pourquoi de nombreuses personnes de gauche sont si sensibles, dans le débat actuel, aux accusations moralisatrices de « Westplaining » lancées par des « lettres ouvertes » de personnes partageant les mêmes idées en Ukraine. Il s'agit ici de la tendance présumée d'une « gauche occidentale », construite de manière essentialiste à considérer tous les événements mondiaux comme le résultat exclusif de la politique d'intérêt occidental. Or, la Russie est, effectivement, est une puissance impérialiste qui considère l'espace post-soviétique, y compris l'Ukraine, comme son arrière-cour. Même pendant les années de liens étroits avec l'Occident, sous Boris Yeltsin, Moscou est intervenue dans de nombreux conflits Transnistrie, Abkhazie, Ossétie, Haut-Karabakh, Tadjikistan sous prétexte de « maintien de la paix », tout en remplaçant bien souvent des dirigeants inamicaux par des fidèles. Il ne fait aucun doute que la gauche ne doit pas être aveugle à la politique de puissance russe. Mais ce fait ne peut pas non plus effacer certaines réalités. Le budget militaire combiné des pays de l'OTAN est nettement plus important que les budgets militaires combinés de tous les autres pays. Dans un monde toujours marqué par la domination militaire absolue et la domination économique relative de l'Occident, de nombreuses actions de la Russie, de la Chine ou d'autres États doivent nécessairement être considérées comme une réaction à cette domination. D'un point de vue moral, cette constatation ne relativise en aucune manière la politique de ces États, qui est guidée par leurs intérêts, qui est également marquée par des violations des droits de l'homme et qui est souvent légitimée par des éléments idéologiques réactionnaires. Elle représente simplement une reconnaissance sobre du fait que l'ordre mondial en 2022 ne ressemble pas à un plan lisse, mais qu'il est souvent marqué par des rapports de force hautement asymétriques entre divers États capitalistes concurrents. Pour une désescalade immédiate et un nouveau mouvement anti-guerre. Ce constat est au cœur de la critique marxiste de l'impérialisme, telle qu'elle a été développée par des marxistes classiques comme Lénine, Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding, Nikolaï Boukharine et d'autres. Bien entendu, et comme c'était parfaitement prévisible, l'interaction entre le pouvoir économique et le pouvoir géopolitique a évolué de manière spectaculaire au cours des 100 dernières années. Les États ne sont pas de simples larbins de « leur » multinationales, ils agissent selon des considérations économiques, stratégiques et idéologiques. Pourtant, beaucoup de choses n'ont guère changé. Le capitalisme demeure un système mondial qui, en raison de son développement géographiquement inégal, favorise la concurrence entre les différents États. Et, comme au début de la Première Guerre mondiale, chaque État, ou association d'États, justifie sa politique de puissance dans la guerre actuelle par une prétention à l'universalisme, celui des États de l'OTAN, ou par le particularisme lié à une spécificité et une, supposée, supériorité civilisationnelle, la Russie. La tâche primordiale de la gauche est de tout faire pour mettre fin immédiatement à cette guerre. En Allemagne et dans d'autres pays de l'OTAN, cela signifie analyser et pointer la responsabilité de nos propres gouvernements. Car ceux-ci sont prêts à faire saigner la population civile ukrainienne au profit du « droit » rhétoriquement intangible de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN qui n'aura de toute façon jamais lieu. Il est alarmant de voir à quel point on parle peu de désescalade aujourd'hui. Au lieu de réarmer, de livrer des armes ou d'imposer des sanctions, le gouvernement fédéral devrait soutenir davantage les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Une fin immédiate de la guerre profiterait en premier lieu à la population ukrainienne et ôterait en même temps du moins en partie toute légitimité à la fermeture des espaces démocratiques en Russie. Au lieu de cela, les pays de l'OTAN placent leurs espoirs dans une usure militaire de la Russie qui s'apparente à un dangereux jeu avec le feu. Enfin, Il est illusoire de croire que les revendications socio-économiques de D-Link peuvent être conciliées avec une attitude qui attribue exclusivement à la Russie la responsabilité de la catastrophe actuelle tout en flirtant avec l'idée de l'OTAN comme instrument démocratisable de sécurité collective. De telles tendances occultent la responsabilité de l'OTAN et de certains de ses États membres dans les guerres de drones moralement condamnables qui ont lieu actuellement au Proche-Orient et en Afrique. Il en va de même pour le soutien occidental aux guerres d'agression, comme la campagne saoudienne au Yémen, qui a ouvert la voie à un génocide. La guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire de nombreux pays du Sud et fournit déjà dans le Nord une excuse pour attaquer le niveau de vie de la majorité des travailleurs. Les explosions inquiétantes de racisme anti-russe ainsi que la négligence du danger toujours aigu du changement climatique montrent que rien n'arrête la spirale d'escalade géopolitique actuelle. Le socialiste irlandais James Connolly a un jour décrit la Première Guerre mondiale comme un « carnaval de la réaction ». Ce que nous vivons aujourd'hui suit une dynamique similaire. Ce dont nous avons actuellement besoin, c'est d'un mouvement anti-guerre guidé par une vision politique claire de l'état actuel de l'ordre mondial et qui ne pratique pas le deux poids deux mesures. Mais un tel mouvement doit également mettre en évidence les liens directs entre le positionnement théorique et l'action pratique, ici et maintenant. Lindro Fischer est professeur assistant d'études internationales à l'Université d'Aalborg, Danemark. Merci, vous êtes informé, Nathalie Rollet CNT Live. Merci à vous Papa Ino. Partagez.